Sur les chemins de la création, une émission proposée par Clémentine Savine.
Je crois qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a mal aux autres. Il y a ceux qui n'apportent rien du tout, il y a ceux qui apportent seulement leur métier, et puis il y a ceux qui apportent leur propre univers.
On exprime les choses que les gens auraient du mal à exprimer de cette façon aussi intense.
Comment ils ont fait pour arriver à faire ça?
On crée, on transforme, on modifie, on jette tout, on recommence.
Ça, c'est la spécialité des gauchos bobos. Ils font de la merde et ils te disent que c'est de l'art.
C'est ça, être artiste.
Ça met une pression assez conséquente.
C'est quelqu'un qui sort quelque chose à partir de rien.
Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans l'émission sur les chemins de la création. Et aujourd'hui avec nous, on a, pour parler de création et de processus, on a Andy et Karine. Bonjour.
Bonjour.
Hello.
Et aussi je suis accompagnée d'Elsa, mon acolyte, qui anime avec moi cette émission. Salut Elsa.
Salut.
Bienvenue dans l'émission.
Merci.
Tout d'abord, on a envie de savoir qui vous êtes. Donc on va commencer par des brèves présentations pour savoir qui êtes-vous, que faites-vous.
Ok.
Allez, Karine.
Donc je suis Karine. J'ai créé l'entreprise Les Fées des Anges. Je suis partie d'un constat où, comme je suis naturopathe, les huiles essentielles, il manquait de support pour préserver vraiment la vertu des huiles. Et je les ai créés. Je suis partie 8 mois en Asie. Et avant, j'ai offert ça à tous mes amis. Et puis quand je suis rentrée, mes amis m'ont dit mais pourquoi tu les vends pas? Et puis tu crées tout le temps plein de trucs. Pourquoi tu fais pas quelque chose là-dedans? Et j'ai dit bah pourquoi pas. Oui, c'est vrai. Allez, go.
Et du coup, tu as créé quoi? Enfin, c'est quoi?
C'est des figurines en gypse qui permet vraiment de préserver. Ce qui permet de la diffusion à froid. Parce que quand on fait chauffer les huiles, ça perd les vertus. Quand c'est par nébulisation, ça vient un petit peu obstruer les poumons. Et là, c'est vraiment de la diffusion à froid, ce qui fait de préserver vraiment les vertus des huiles essentielles.
Super.
Et c'est artistique, c'est joli. C'est des supports qui permettent en plus d'être décoratifs dans une maison.
Yes, trop bien. Et toi, Andy, qui es-tu? Que fais-tu?
Eh bien, moi, je suis guitariste, principalement guitare électrique. J'ai toujours eu une guitare avec moi dans la vie depuis que j'ai 14 ans. Et j'ai voulu en faire quelque chose de concret il y a, un peu moins de 10 ans. Et aujourd'hui, j'évolue à travers plein de projets différents autour, de musique j'amène un peu dans chacun des projets une patte que j'aime bien, quoi.
Est-ce que tu vis de la musique aujourd'hui?
Oui. Oui, je suis intermittent depuis 5-6 ans maintenant. Et avec plusieurs projets en expansion. Voilà. Et des projets un peu, comment on appelle ça déjà? Ça gravite autour.
Ah, hein en orbite.
Ouais, si on veut.
Innovant, non?
Non, je voulais dire
fédérateur.
Qui gravite autour, tu vois, des collaborations diverses ou projets personnels. Ouais.
Chouette. Donc essentiellement guitare, pas autre chose, pas de voix, pas de.
Non, après je fais des chœurs dans les différents groupes, mais pas de voix. Non, c'est peut-être quelque chose que j'aimerais développer un peu plus. En ce moment, j'aimerais bien développer un peu plus ça.
Ok.
Chanter un peu plus, écrire des choses et tout, mais pour l'instant vraiment en choriste quoi et guitariste accompagnant et soliste.
Et en guitare, tout type de guitare?
C'est-à-dire?
Je sais pas, basse, électrique, acoustique.
Non, alors
je connais pas grand-chose.
J'ai fait de la basse, j'ai fait du ukulélé, j'ai fait tous les instruments à cordes grattées, si on veut. J'adore ce feeling. Mais vraiment, la guitare et vraiment la guitare électrique, ça c'est vraiment un domaine que j'adore. Après, pas forcément comme on l'entend, parce que je suis pas un rocker ou quoi spécialement, ou alors pas vraiment assumé. Mais moi j'aime la guitare plutôt groove quoi, si on veut. Voilà, donc je joue aussi de la guitare, une guitare classique, sèche, etc. Mais vraiment j'aime bien le fait de perfectionner un instrument. Parce que c'est un univers qui aujourd'hui J'ai mon univers là-dedans et j'aime m'y retrouver et développer à l'intérieur de ça.
Ouais,
et
puis il y a tellement de choses à explorer.
C'est ça.
Même quand tu prends qu'une entrée en matière, enfin déjà il y a tellement de matière et de trucs dans tous les sens, mais même avec un instrument ou un support plastique, en fait tu peux aller dans tellement d'endroits.
Tu peux explorer à l'infini en fait.
Bah, j'ai exploré quand même d'autres instruments. J'ai commencé à apprendre un peu à jouer des instruments avant, en bouchure ou quoi. J'ai un bon feeling avec la batterie ou les percus en général, parce que j'adore le rythme. Donc j'explore un petit peu forcément d'autres instruments. Je connais quelques gammes au piano, alors ça me fait plaisir de les jouer de temps en temps, etc. Mais tout ça pour servir la guitare. Tout ça pour avoir un point de vue différent, etc.
Okay. Est-ce que ça te parle Karine, toi qui es aussi un peu couteau suisse, si je puis dire.
Oui, puis moi j'ai grandi dans une famille de musiciens, donc mon frère c'est un génie de la musique. Et je crois au-delà de servir la guitare, en fait, tout ça pour servir la musique.
Ouais.
Et moi je vibre en musique. Voilà, tout le monde faisait un instrument dans ma famille, mon père, mon frère, ma mère faisait du saxo aussi.
Ah ouais.
Et moi, à un moment donné, je me suis dit, je ne sais rien faire comme instrument. Je me suis inscrite dans une chorale gospel pour ne pas rester sur la touche. Et puis voilà, je m'amuse à chanter. Je me suis dit, arrêtez de chanter sous la douche, mais aussi chanter ailleurs.
C'est complémentaire du coup dans ta pratique artistique.
Mais je crois que en fait la création c'est une façon de voir le monde et c'est notre manière. Enfin moi en tout cas c'est ma manière à moi de refaire le monde autour de moi. Mmh. Il manque quelque chose. J'ai envie de le créer. Ah, c'est et la musique c'est ça. C'est aujourd'hui fait gris. On va créer quelque chose qui va permettre d'amener un peu de peps quoi.
Est-ce que tu recrées ce que tu considères comme des imperfections ou alors tu vas créer un univers complètement nouveau avec, je sais pas, des nouvelles couleurs, des nouvelles sensations
Tout a objet à créer chez moi. C'est-à-dire, il va manquer un meuble, je vais chercher des plans, je vais faire beaucoup de récup et je vais créer un meuble. Tout est matière à créer. Dès que je vois quelque chose, je sais pas, du fer, je me dis, ah, tiens, je pourrais faire un luminaire avec. Chaque fois que je vois quelque chose, en fait, j'ai envie de faire quelque chose avec. Mais depuis toujours,
et du coup, c'est là où je voulais en venir. Si tu remontes la source et que tu vas fouiller dans le passé, est-ce que tu saurais nous dire à quel moment la création t'attrape ou te touche?
J'ai écouté tes émissions auparavant.
Merci.
Et avec plaisir. Il y en a une où justement une dame parlait de son enfance. Mm. Et une enfance un peu noire et on a envie de mettre de la couleur dedans. Et je pense que c'est ça. Moi, ça remonte de l'enfance où le monde tel qu'il était, trop de violence, trop de choses un peu dark, et je me suis dit waouh, non, c'est moi, je vivais dans mon monde imaginaire, il était super sympa, et je pense que c'est ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui en fait, parce que j'ai envie de créer, de mettre de la couleur partout. On change le monde, en tout cas moi je change mon monde
carrément. Est-ce que toi, Andy, de ton côté, tu saurais nous dire à quel moment ça te touche, la création? À quel moment tu commences à créer ou alors juste ça t'appelle, quoi?
Je pense que quand j'ai commencé à jouer, j'ai commencé parce que ça m'appelait très très fort. Surtout en voyant des gens jouer. J'ai eu l'occasion de voir quelqu'un jouer de la guitare pour de vrai devant moi. C'était des potes, on était au collège, genre... Et là, je me suis dit, waouh, putain, c'est puissant, quoi, comme... pardon pour les gros mots. C'est puissant comme, je sais pas, c'est puissant tout court. Et moi, dans ma famille, j'avais pas trop accès à ça spécialement. Et du coup, c'est marrant parce que moi, je viens plutôt, entre guillemets, de l'art plastique. J'ai beaucoup dessiné, peint, utilisé cette matière. Et après, je suis allé vers la musique, un peu à l'inverse de toi, finalement. Et ouais, à ce moment-là, ça a commencé à m'appeler, et ce qui m'appelait, c'était un peu comme ce que ça fait écho en moi, ce que tu racontais, parce que il y a ce côté, moi j'ai créé une bulle un peu à l'intérieur de ça, c'est-à-dire que je jouais de la musique parce que ça faisait des vibrations, quoi, si on veut, et j'ai toujours été un peu, un petit peu flemmard, si on veut, j'avais pas trop envie d'étudier spécialement la musique, parce que ça enlevait pour moi une part de mystique ou quoi. Donc j'ai mis beaucoup de temps à développer le fait de savoir vraiment bien jouer, mais Mais je m'en foutais parce que ça, je pouvais passer longtemps à faire juste un accord et je trouvais ça cool. Et en fait, je pense que c'est arrivé de là le fait de créer, d'aller chercher le son de l'instrument parce que ça m'emmenait quelque part, quoi.
Ah, mais en même temps, ouais. Si t'es sur un accord et que tu tournes avec un accord et que tu enfin, je sais pas, c'est dans mon imaginaire à moi, mais que tu restes là-dessus et que tu explores de A à Z cet accord sous tous ses angles. Ça doit te donner une précision de l'écoute, tu vois ce que je veux dire?
Complètement, bah, surtout que dans ma vision aujourd'hui en tout cas, le plus important dans la musique ça reste le son et pas forcément ni la virtuosité, ni la complexité, etc., mais vraiment le son. Et je pense que c'est ça qui réunit toutes les musiques qui fonctionnent vraiment. Je parle pas des musiques de niche, etc. Encore que je pratique aussi des musiques de niche un peu. Mais en tout cas, le point commun entre toutes les musiques très populaires, c'est qu'elles sont accessibles à tous et à toutes. Et en fait, parce qu'elles sont, elles ont une genre de simplicité aussi, et que la complexité vient de la subtilité du son, vraiment. Moi, je dis toujours qu'en guitare, la main la plus importante, c'est la main droite. Moi, je suis droitier. Celle qui va attaquer les cordes, parce que c'est elle qui va donner le son, alors que la main gauche, elle choisit quelle note, et ça, c'est juste une question de point de vue, quelle note. On fait ce qu'on
veut.
Oui,
elle donne le mot, le verbe, mais ouais. La main droite, elle va donner l'intensité et l'intention du verbe, c'est ça?
Voilà.
Quelque part.
Ouais, c'est bien dit.
Je le traduis en mode comédienne. Ouais.
C'est bien dit, carrément. Et l'intention, c'est le plus important, je pense, de mon point de vue.
Et, du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de... Tu disais que jusqu'à très tard, en fait, pour toi, c'était un peu pas gâché, mais tu comprenais pas l'importance d'apprendre la musique. Qu'est-ce qui a été le déclic, en fait?
Je crois que le déclic, ça a été quand je me suis dit dans ma vie, j'ai envie de, entre guillemets, de devenir professionnel. Je l'ai pas dit avec ces mots-là, mais je me suis dit, j'ai envie de faire quelque chose avec cette musique parce que je suis encore jeune, entre guillemets, et j'étais un peu en transition dans mon métier. À la base, j'étais moniteur de voile, rien à voir. Et j'étais dans un fin de processus, si on veut, et je me suis dit, pour le prochain truc, je veux faire de la musique, parce que après j'ai pas envie d'arriver en étant vieux et en me disant que j'ai toujours fait de la guitare dans ma vie, que j'ai jamais poussé le truc. Et du coup, le fait de vouloir faire ça, ben, j'ai commencé à plus étudier, etc. Et après, ça a été un engrenage où je me suis rendu compte que du coup... bah, la technique, l'apprentissage, c'était au service en fait de tout ce que... Mais je pense que dans mon processus, c'était trop important de passer par cette phase de 15 ans de vagabondage et de juste feeling et tout ça, parce que du coup, j'ai pu aborder aussi le travail avec plus de légèreté.
Est-ce que ça t'a permis d'apprendre à ressentir les notes plutôt que juste les nommer et les lire, en fait?
Oui, je pense. Je sais toujours pas lire la musique, d'ailleurs. Enfin, je lis des grilles, quoi, mais... Mais bon, moi, je marche pas comme ça. Je marche à l'oreille et au feeling, ouais.
Et puis, du coup, ça t'a nourri, quelque part, tout ce qui n'était pas musique aussi. Est-ce que ça t'a nourri, quelque part, pour après...
Bien sûr.
Donne de la matière aussi.
Mais tout donne de la matière. Parce que je pars du principe que peu importe ce qu'on fait sur scène, mais on est là pour raconter un truc. Donc, si on a... Enfin, du coup, faut vivre des trucs. Et donc je suis content d'avoir commencé par vivre des trucs et d'avoir des histoires à raconter, même si c'est un peu abstrait. Moi, je suis guitariste soliste, j'écris pas spécialement des chansons, etc. Mais il y a quand même une... On est là pour une présence aussi et pour amener quelque chose. Et on n'est pas forcément là pour se montrer soi, mais on est un outil pour que les gens puissent aussi se reconnaître dans certaines choses. Et que le devoir en tant qu'outil, entre guillemets, pour ça, c'est aussi d'avoir un peu des trucs à raconter, quoi.
Carrément. Est-ce que toi, Karine, il y a des choses qui te nourrissent? Tu disais la récup, par exemple.
Ouais.
Mais est-ce qu'il y a des choses comme ça qui viennent te nourrir, t'inspirer ou...
Tout. Non, c'est très difficile pour moi. Je vais te dire... Vous demandez l'inverse, qu'est-ce qui ne me nourrit pas?
Qu'est-ce qui ne te nourrit pas?
Non, non, tout. J'ai travaillé pendant 10 ans dans un EHPAD et j'étais animatrice sociale. Et on avait très très peu de budget et moi j'aimais faire du créatif avec les personnes âgées et puis on m'appelait Déméter parce que j'avais tellement pas de budget qu'en fait chaque fois quelqu'un disait je vais jeter ça, non jette pas, donne. Et en fait mon bureau c'est devenu Déméter, vraiment le récup.
La recyclerie.
Oui, exactement, je recyclais tout. Mais je crois que ça m'éclatait en fait. Au début je râlais un peu, ouais, avec du budget je pourrais acheter ça, mais en fait quand on achète je trouve que c'est pas pareil, ça paraît trop lisse. Mmh. Alors que quand on change la dénomination de l'objet au départ, il y a quelque chose, je trouve qu'on est beaucoup plus fiers de soi. Côté fierté.
Est-ce que du coup les matériaux de la nature, tout ça, ça...
Oui.
Oui, beaucoup, oui. La nature.
Ouais, tout. Tout. Je changeais la décoration de la salle à manger en fonction des saisonnalités. Donc l'automne, on cherchait des feuilles, des ceps de vigne, et on faisait tout le plafond de la salle à manger. Wow. Je récupérais des bougies japonaises, je collais avec les résidents, collais de la ouate dessus pour faire des gros nuages. Enfin, non, c'était super. Et je crois que j'ai toujours fait ça, mais j'en ai fait mon métier entre guillemets, mais c'était à l'animation sociale, c'était vraiment pas ça l'objectif à la base. Mais du créatif, finalement, dans tous les métiers que j'ai faits, j'ai réussi à le placer quelque part.
Quoi.
Oui. Ouais. Ah ouais. Et là, à 48 ans, je me suis dit, bon, à un moment donné, à force que ça soit un fil rouge, peut-être que je vais essayer d'en faire mon activité principale.
Carrément. Ouais. Carrément. On va se faire une petite pause musicale, les amis, avec un son que, Andy, tu voulais nous partager. Mm-hmm. Est-ce que tu veux nous en toucher deux mots?
Ouais, bah ça a été dur de faire un choix parce que je suis dans plein de groupes et j'ai pas envie de spécialement prioriser parce que tous ils ont vraiment leur univers. Du coup j'ai choisi ce morceau parce que je sais pas, c'est la guitare, elle est un petit peu à l'honneur aussi. Voilà, c'est pas un thème que j'ai écrit. D'habitude je compose pour les groupes et là en fait c'est un thème du chanteur en question. Qui a un thème qu'il a composé pour graille à la base. Je ne sais pas si vous voyez cet instrument, la graille. Voilà.
On voit très bien la graille.
Voilà, c'est notre biniou à nous.
Qui nous tape sur le système, mais qu'on aime en même temps.
Voilà, exactement. Et du coup, en fait, c'est un thème de graille que j'ai repris à la guitare électrique. Voilà, en mettant un peu ma patte sonore, si on veut. Voilà. Et bon, je me suis dit, bon, j'ai pensé à ce morceau. Alors,
et il s'appelle alors, comment ?
Il s'appelle Canson. Canson, c'est la chanson... Voilà, en occitan.
Eh ben c'est parti.
C'est un poème de Max Rouquette.
Yes. Oh. Mmh. Allez, on écoute Canson.
S'embrasser, on s'évole des passages, des chants au lieu dit des corps au croasva. Dans cette voix, la plume écrit dans ma chair danse. Il est des lieux symboles, des fleurs de pierre et puis ce chemin. Simple de silence où dansent les mots là. Dans cette joie, la poésie est en vacances. Ay cerca de l'ombre, l'herbe d'au camino, et la peira li l'inno che faccio danzare tutto la perino aumentando in clore ai cerca di laigo tutta un'erba in rai dell'inno sei arrenegato e ora primo obo messo io nel night ai gaudio lagremo mon corto
Merci pour le partage et pour le voyage.
Avec plaisir.
Et du coup, on entend plein d'influences, plein de choses. Est-ce que, même si c'était un thème déjà existant, que toi t'as transformé pour la guitare, dis-moi si je dis des bêtises.
Oui, non, pas de bêtises.
Est-ce que tu veux nous expliquer comment ça s'est passé aussi avec les autres musiciens pour dans le processus de création de ce morceau?
Ouais. Dans beaucoup de mes groupes, on fonctionne un peu en collectif. Alors, des fois, il y a des propositions plus fortes où juste on prend l'idée de quelqu'un, on va jusqu'au bout, etc. Mais là, voilà, on est trois dans ce groupe et chacun amène un peu ses influences. Et là, on cherchait un morceau. On s'est dit qu'on aimerait bien faire une valse à cinq temps parce que dans ce groupe, on est un peu dans une catégorie néo-trad, si on veut faire un gros mot, mais voilà, on a beaucoup d'influences trad, on va dire, un peu partout, et notamment aussi foro-trad, etc. Et on mélange tout ça, donc il y en a un qui amène toute la partie rythmique des rythmes à danser, avec les codes associés, etc. Le chanteur amène un peu des textes, etc. Et moi, j'essaye de lier tout ça à la guitare. Et là, il avait une proposition d'un thème qu'il avait écrit pour Graille, qui n'a pas été retenu dans un autre de ses groupes, et qui s'est dit, tiens, ça pourrait être sympa peut-être de le mettre en musique. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. Et après, moi, ce que j'ai composé dans le morceau, c'est l'accompagnement du chant. Donc c'est là aussi où il y a, voilà, j'utilise une progression d'accords un petit peu qui marche avec le thème, mais que je vais puiser aussi dans mes influences de musique latine, un peu classique, etc. Parce que j'adore la guitare classique, ce qui rejoint la musique latine beaucoup. Et voilà, et puis des petites cocottes, je sais pas si vous voyez ce qu'on appelle une cocotte en guitare, mais c'est, voilà, j'utilise ça.
Explique-nous.
C'est une approche rythmique de la guitare, on utilise ça beaucoup en funk, en musique afro, c'est quand la guitare avait voilà, donc là j'utilise des trucs comme ça à un moment pour accompagner le chant, et puis avec plein d'effets.
C'est un peu comme la cuica au Brésil, non?
Alors la cuica...
Je sais pas, moi j'entends la cuica quand tu fais coco.
Ouais, peut-être qu'effectivement j'imite assez mal la coco guitare. Et que ça peut ressembler à une cuica, je vois ce que tu veux dire. Oui, effectivement.
Non, mais alors, c'est pas ça l'idée.
Non, l'idée c'est plutôt une guitare presque, il n'y a pas de résonance, quoi, très sèche. L'idée c'est d'avoir un truc un peu piquant et rythmique.
Ok.
Voilà. Et voilà, le processus, c'est que le percussionniste, lui, il a trouvé comment accompagner cette valse à 5 temps en utilisant un rythme de valse à 5 temps. Et voilà. Et puis après, on construit le morceau comme ça. Une fois qu'on a tous on a des idées, après, on joue un peu au Lego, entre guillemets, avec nos parties, à essayer d'assembler des choses, voir ce qui sonne le mieux. Penser beaucoup à l'équilibre des choses, quand la voix elle rentre, que la guitare prenne pas le dessus, du coup peut-être avoir un accompagnement qui marche pas sur la voix, etc., pour que tout se dessine, quoi. Voilà. Puis il y a un pont dans ce morceau qui est un peu psychédélique, parce que j'adore aussi ma musique un peu psyché. Et là, du coup, on a décidé pour ce pont, moi je voulais amener un truc vraiment trippé, donc j'utilise des effets un peu de vibrato, etc., qui vont donner des textures à la musique. Et donc là, on part un peu dans les cieux pendant 30 secondes pour revenir au morceau. En le jouant comme ça, en jouant un peu au Lego, après on arrive à un morceau
qui vous ressemble.
Qui nous ressemble, ouais, complètement.
Donc, moi, ce que j'entends aussi dans tes explications, c'est qu'il y a une grande force du collectif dans la composition. Et du coup, c'est quoi le plus fort pour toi? C'est la création, ou alors le plus compliqué? Qu'est-ce que tu préfères dans la création seule ou la création vraiment en collectif?
J'ai pas de préférence, en fait. J'ai l'habitude de faire pas mal en collectif, et quand on fait seul, c'est-à-dire quelqu'un arrive et dit toi tu joues ça, toi tu joues ça, toi tu joues ça, je peux pas m'empêcher de toute façon d'interpréter ce qu'on me demande de jouer, puisque aussi j'ai pas forcément fait de conservatoire, etc. Et je joue ce qu'on me demande de jouer, mais avec mon son, mon type d'attaque, s'il y a des trucs qui me vont pas, je les change, on en parle, etc. Donc dans tous les cas, pour moi, ça reste un mélange des deux. C'est du collectif, mais chacun est une individualité dans ce collectif, de toute façon.
Est-ce que du coup, t'as des approches différentes quand c'est le collectif et quand t'es seul ?
Oui. Enfin, c'est dur à répondre ça comme question. Parce que, en fait, je sais pas ce que t'entends par collectif ou seul, du coup. Tu peux dire si on construit collectivement, oui. Ouais, ben globalement on construit souvent collectivement. Moi j'aime bien partir d'un cahier des charges un peu strict. J'aime pas trop partir de la feuille blanche, moi. J'aime bien savoir vers où on va. Plus j'ai de contraintes et plus c'est facile pour moi, ouais, de créer au sein de cette contrainte.
Ça fait des modalités, quoi.
Ouais. En fait, moi, tu me présentes une musique, il y a la rythmique, c'est ça, le chant, c'est ça, etc. Ben moi, j'entends la guitare, comment elle sonne à ce niveau-là.
Ah ouais, tu l'entends dans ta tête comme ça ?
Ouais.
Ok.
Ouais, j'imagine tout ce qui pourrait être cool à cet endroit-là, etc. Après, des fois, tu l'essayes, en fait, ça marche pas. Mais globalement, les choses, elles viennent comme ça, naturellement. Alors que la page blanche, ben...
En fait, c'est blanc, quoi.
C'est blanc, quoi, ouais. Tout est bien, tout est nul, tout est... Enfin, tu sais pas, en fait.
Est-ce que Karine, ça t'évoque quelque chose, toi, ce truc de solitude, ou en groupe, ou page blanche, ou contrainte?
Je suis un peu d'accord avec la page blanche. Moi, tu mets une toile et des peintures à côté, je ne saurais pas quoi faire.
Il y a rien qui sort.
Non, par contre, tu me donnes du grillage, un peu de peinture, et des tiges, et des vis, et une visseuse. C'est bon, je n'ai plus une lampe. Mais la page blanche, oui. Après, le collectif, c'est toujours, je trouve que c'est toujours intéressant, parce qu'on apprend les uns des autres, comme dans la vie, hein, chacun apporte quelque chose à l'autre. Mais j'aime créer dans ma solitude. C'est-à-dire, j'ai besoin de ma bulle de solitude pour créer, mais quelque part, j'ai besoin également des autres.
Trouver l'équilibre, c'est les
exactement.
Deux.
Ouais.
Est-ce que tu te crées tes propres contraintes, du coup, pour créer ?
Quelque part, oui, c'est comme si je me créais mes contraintes, oui. Oui, quelque part, c'est une forme de contrainte que d'avoir du matériel, dire qu'est-ce que je vais faire avec. C'est une forme. Mais moi, je suis quelqu'un qui aime bien la liberté, donc c'est difficile pour moi de me contraindre déjà. Il vient heurter quelque chose chez moi, là.
Et qu'est-ce que tu... Enfin, avec quel autre mot tu pourrais remplacer contrainte, du coup, pour coller plus à...
Les outils.
Les outils.
Oui. Ouais, pour moi, c'est tout est outil. Tout est outil à créer. Ouais, c'est une boîte à outils.
Là, par exemple, typiquement, ton dernier outillage qui t'a emmené quelque part, c'était quoi ?
Alors moi, je vais nulle part sans ma perceuse. C'est un truc de ouf. Un jour, j'ai prêté une perceuse à quelqu'un et il l'a mis dans sa voiture et il s'est fait péter la bagnole. Mais c'était ma meilleure perceuse de ma vie, mais comme un doudou, tu sais, c'est comme un enfant qui a perdu son doudou. C'était une AEG, je m'en souviens encore, désolée si je cite des marques. Mais cette perceuse, j'en ai pas fait mon deuil encore. Bonne perceuse.
Ça fait combien de temps qu'elle a été volée ?
Oh, ça doit faire au moins 10 ans.
Ah oui.
Mais je m'en souviens encore. Ouais. Je me souviens encore à quoi elle ressemblait et tout.
Ouais, je comprends.
Extraordinaire, cette perceuse.
Et t'as jamais pu retrouver une perceuse aussi performante ?
Non, jamais.
Et du coup, pourquoi c'est aussi important pour toi, la perceuse ? Parce que...
Tu fais tout avec. Tu vises, tu perces, tu fais tout. Tu peux mettre ton mélangeur à peinture, tu peux polir des choses. Tu fais tout avec une perceuse. Avec une perceuse, je suis partie 8 mois en Asie. Et on m'a demandé de faire une clôture avec des roseaux et des espèces de lanières en plastique. Je dis, ouais, mais j'ai fait quoi ? J'ai pas de marteau, j'ai pas de clou. Non, tu te débrouilles avec ça. J'ai appris à bricoler avec rien. En Asie, à faire tout avec rien. Ça m'a changé. Quand je suis rentrée, j'étais quand même contente de récupérer ma perceuse.
Tu m'étonnes. Mais du coup, ouais, c'est intéressant. Là, ça t'a confrontée. Bah, du coup, ouais. Contrainte, là, pour le coup, le ça. Mot...
Et le challenge que j'avais, c'est de créer un espace d'art éphémère.
OK.
Et j'ai créé cet espace d'art éphémère en Malaisie, dans un centre pour trisomique.
Ok.
Ah, c'était génial.
Toujours le côté social aussi. Quand même.
Toujours.
Ouais. Ouais, c'est important pour toi.
Je suis partie 8 mois en Asie, pas pour découvrir des paysages, mais pour découvrir des gens. Ouais. des cultures, d'autres façons de penser, pour faire tout avec rien, et avec un minimum de confort avec rien.
Et est-ce que tu dirais que ça a influencé ce que tu as pu créer là-bas et même après ?
Ça influence parce que je me suis rendu compte que l'important, souvent on rêve sa vie, on se dit tiens, j'aimerais bien faire ci, ça, ça. Et j'ai remarqué que le plus important, c'est de mettre un pas. Un pas après l'autre, mais un pas. Et la création, en fait, souvent, on la garde au niveau de notre imaginaire, mais on ne la met pas dans la matière. Ouais. Et parce qu'on se dit, je n'ai pas le temps, ou je n'ai pas les outils, ou je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Il manque toujours quelque chose quand on a peur d'y aller. Et au final, j'ai remarqué, surtout à Bali, ils faisaient des poutres pour des temples, et ils s'y mettaient 10 000 par jour. Mais ils faisaient des poutres, mais d'une beauté, tous les jours, avec leurs petits ciseaux à bois, ils venaient sculpter, et ça avançait. Autant que ça devait avancer, mais ça a avancé. Et l'important, c'est ça, en fait, c'est un pas après l'autre.
Le mouvement.
Le mouvement, exactement.
Carrément. Et en parlant de mouvement, on move vraiment très proche de la fin, là, de cette émission. Et déjà, je voudrais vous dire un grand merci pour votre présence. Et on va se quitter avec le mot de la fin. Mm-hmm. Et le mot de la fin, c'est un seul mot. Qui représenterait votre rapport à la création. Mmh. Qu'est-ce que ce serait ?
Waouh !
Moi, je dirais la vie.
Oh.
La vie.
Un seul mot.
Oh. Tu peux en mettre deux, hein. Ouais, ou trois.
T'as le droit de tricher. ou t'as le droit de changer d'avis dans 2 heures aussi.
Ah ouais, ouais. Mais là, tu parlais de mouvement, alors j'ai bien envie de l'utiliser. Le mouvement.
Le mouvement. Ouais. Et la vie. Mmh. Et ben, ouais. C'est qualitatif les mots de la fin aujourd'hui. Bah, merci beaucoup Andy et Karine.
Merci, avec plaisir.
Et un grand merci à Alice Rollet à la réalisation. Et on se retrouve tout bientôt sur les chemins de la création. Sur les chemins de la création. Une émission proposée par Clémentine Savine.
Je crois qu'un artiste, c'est quelqu'un qui a mal aux autres. Il y a ceux qui n'apportent rien du tout. Il y a ceux qui apportent seulement leur métier. Et puis il y a ceux qui apportent leur propre univers.
On exprime les choses que les gens auraient du mal à exprimer de cette façon aussi intense.
Comment ils ont fait pour arriver à faire ça ?
On crée, on transforme, on modifie, on jette tout, on recommence.
Ça c'est la spécialité des gauchos bobos. Ils font de la merde et ils te disent que c'est de l'art.
C'est ça être artiste. Ça met une pression assez conséquente.
C'est quelqu'un qui sort quelque chose à partir de rien.